France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Les grands fonds marins sont la nouvelle géopolitique du XXIe siècle. Parce que d'abord, pour réaliser la transition énergétique et numérique, nous allons avoir besoin de ressources minérales considérables.
Dans ce nodule, vous pouvez trouver du manganèse, du nickel, du cobalt et du cuivre. Ces quatre métaux, vous ne pouvez pas les trouver ensemble sur Terre.
Aujourd'hui, les biologistes tirent la sonnette d'alarme parce que quel serait l'impact d'une activité minière grand fond, on ne sait pas.
On pense que pour une fois, on peut éviter une catastrophe environnementale avant qu'elle se produise. Comme si on était il y a un peu plus d'un siècle et demi, où on pouvait anticiper le développement de l'industrie des hydrocarbures et l'empêcher de démarrer.
Alors que 12 hommes sont allés sur la Lune, seuls 4 ont déjà plongé à plus de 10 000 mètres de profondeur. Autant dire que les fonds marins restent très mystérieux. 80% de ces zones sombres et froides sont à ce jour inexplorées. Un mystère qui suscite une curiosité croissante. Des scientifiques s'intéressent à la biodiversité des grandes profondeurs, car dans ce milieu inhospitalier vivent de nombreuses espèces rares, pour une bonne part encore non recensées. Et les profondeurs océaniques recèlent aussi d'autres trésors, comme ces métaux précieux qui font briller les yeux des industriels. Nickel, cuivre, manganèse et cobalt sont de plus en plus recherchés, notamment pour augmenter la production de batteries, éléments clés de la transition énergétique. Mais la France, comme d'autres pays, s'oppose à cette exploitation minière des grands fonds marins. Emmanuel Macron l'a dit clairement en novembre dernier à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Et le 17 janvier, les députés lui ont emboîté le pas en se prononçant pour un moratoire. Car quel serait l'impact environnemental d'une telle activité? Quel risque pour les écosystèmes marins, pour la biodiversité? Constatant chaque jour les effets de l'exploitation de la planète par l'homme sur les espèces et le climat, nous ne pouvons plus faire l'économie de ces questions. Au fond des océans, des richesses convoitées, c'est un reportage signé Catherine Pétillon. Dans Grand Reportage, nous accueillons aujourd'hui Joachim Claudet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez au CRIOB, le Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l'Environnement. Vous êtes aussi conseiller océan au CNRS. Nous allons entamer avec vous une plongée dans les abysses grâce au reportage de Catherine Pétillon. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors les fonds marins fascinent depuis longtemps, mais on passe aujourd'hui de la fiction à la réalité.
Oui, d'abord parce que la technologie progresse. Les premiers bathyscaphes ont fait place à des robots autonomes qui sont capables de se déplacer au fond des océans. Désormais, il existe des observatoires de fond de mer. Des drones sous-marins permettent de cartographier peu à peu les plaines abyssales. Rappelons que les fonds dont on parle se situent pour les trois quarts en deçà des 3000 mètres de profondeur. Y récupérer des minerais est désormais possible. Certaines entreprises font déjà des essais in situ. Il y a quelques semaines encore, fin 2022, l'entreprise canadienne de Metals Company testait son système de collecte dans la zone de Clarion-Clipperton, c'était entre Hawaï et le Mexique, et en un mois, elle a collecté environ 3000 tonnes de roches. Voilà qui change la donne pour les industriels, puisqu'une exploitation commerciale est désormais, sinon accessible, du moins franchement envisageable. Des filières et des intérêts économiques se constituent, et cela d'autant plus que ces ressources minérales, mais pas seulement, ont déjà d'importants débouchés et marchés potentiels. Et puis les États l'ont bien compris, l'accès à l'océan et à ses ressources est un enjeu géostratégique majeur. Chaque pays y voit un instrument potentiel de sa propre puissance et espère avoir du poids dans les négociations actuelles pour établir les règles qui devront avoir cours en haute mer. Autrement dit, on assiste à une sorte d'intensification des enjeux autour des abysses, le tout dans un contexte de grande urgence climatique. Et c'est aussi pour cela que les scientifiques travaillent beaucoup à rendre visible la vie de ces grands fonds, aujourd'hui très méconnus du grand public.
Justement, pour savoir ce que l'on trouve dans les océans, vous vous êtes rendu à Plouzane, près de Brest, à l'Ifremer, où vous avez rencontré le géologue marin Ewan Pelter.
Alors ici, on est dans l'unité géo-océan, donc l'unité de recherche géosciences, qui travaille sur tous les aspects géosciences dans les grands fonds, dont l'étude des systèmes hydrothermaux des grands fonds. Donc là, on a des exemples d'échantillons, alors divers et variés. Donc on a ces fameuses cheminées de sulfure. Donc là, on a une très belle coupe d'une cheminée. Il faut imaginer un fluide qui arrive à 350 degrés, donc très chaud, avec un pH très acide, un pH de 2. Et donc le contact entre ce fluide très chaud et l'eau de mer crée la précipitation de particules qui ensuite vont permettre de former ces cheminées qu'on peut voir ici, qui peuvent former des structures de plusieurs mètres de haut, voire des dizaines de mètres de haut. Et donc, dans ces cheminées, ce qui précipite souvent, alors pas tout le temps, on peut avoir différents types de minéraux qui précipitent, mais souvent, c'est les fameux sulfures, donc les minéraux riches en en métaux, donc fer, cuivre, zinc, et associé à du soufre. Donc là, on a quelques sulfures, donc on voit des couleurs qui vont un peu du jaune, donc ça c'est quand il y a pas mal de cuivre, jusqu'à des choses un peu plus pâles, donc avec des sulfures de fer.
Le cuivre, c'est les paillettes ?
Le cuivre, c'est les paillettes très jaunes qu'on voit ici. Donc là, par exemple, c'est un échantillon qui était proche de Wallis et Futuna, qui est un système très haute température, où on a des concentrations en cuivre qui étaient assez fortes. Un peu d'or et d'argent aussi. Et donc, ça forme des structures assez fantastiques d'un point de vue minéralogie, d'un point de vue couleur. On a aussi différentes choses qui viennent d'autres endroits de l'Atlantique, un peu plus au sud. On a ici des cheminées qui sont très particulières parce qu'il n'y a pas du tout de métaux dans celle-ci. Donc on sait qu'il y a plein de façons de former des systèmes hydrothermaux et ceux-ci peuvent avoir des caractéristiques très différentes. Et ça, c'est des choses qui ont été découvertes dans les années 2000, hein, donc c'est assez récent à l'échelle de la science. C'est des cheminées de carbonate. Donc ici, c'est calcium, carbone, hein, et en fait avec aussi de la brucite, qui est un oxyde de magnésium.
Là, dans ces zones-là que vous étudiez, est-ce qu'il y a aussi des minerais ou des choses qui intéressent aujourd'hui, au-delà des scientifiques, des industriels ?
Oui, en fait, jusqu'à il y a encore 15 ans, c'était un peu le terrain de jeu que des scientifiques. Donc on les étudiait d'un point de vue vraiment recherche fondamentale. Aujourd'hui, certains de ces systèmes hydrothermaux sont associés avec la précipitation de minéraux qui peuvent être riches en métaux. Donc les métaux qui sont les plus regardés, c'est le cuivre et le zinc. Et on trouve aussi, des fois, dans certains de ces systèmes, notamment dans la zone ouest pacifique, on peut trouver des enrichissements en métaux précieux, argent, or, voire même des éléments qui ont des noms un peu bizarres, indium, germanium, qui ne parlent pas énormément, mais qui, en fait, sont utilisés dans, par exemple, les panneaux solaires, le germanium, dans les écrans plats, les LED, l'indium, etc. Donc, il y a eu quand même un intérêt de certains industriels et qui regardaient justement ces dépôts-là pour le fait qu'ils étaient assez riches en cuivre et zinc, et surtout qu'ils avaient beaucoup de métaux. C'est pour ça qu'on les appelle polymétalliques. C'est pour ça que souvent les ressources minérales marines sont regardées, c'est qu'elles sont souvent associées à beaucoup d'enrichissements en plusieurs métaux. Certains sont des métaux un peu de base, hein, cuivre, zinc, et d'autres sont des métaux plus qu'on appelle rares ou de haute technologie ou verts, parce qu'ils sont utilisés soit dans les hautes technologies, soit dans les énergies vertes.
Ce qui n'est pas le cas de ces mêmes métaux sur Terre, ça c'est spécifique en fait, cette alliance ou cette densité ou ces mélanges ?
Disons que non, à Terre aussi on a certains gisements qui sont polymétalliques, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gisements où on retrouve un élément d'intérêt, soit le zinc, soit le cuivre. Et c'est vrai que c'est une des caractéristiques des minéralisations marines, c'est qu'elles sont les trois qu'on connaît, hein, les nodules, les sulfures et les encroûtements, ont tous plusieurs métaux. Donc certains très enrichis, d'autres légèrement enrichis. Et c'est ce qui intéresse, c'est le fait d'avoir la possibilité de récupérer plusieurs types de métaux, donc de lisser certains cours du métaux qui peuvent évoluer.
Ce qui intéresse le plus les industriels aujourd'hui, ce sont les minerais sous forme de nodules polymétalliques. Ces concrétions minérales mesurent entre 2 et 15 cm et reposent sur le fond des océans. Certains gisements sont connus et convoités depuis les années 1960. Dans le monde industriel, la course est déjà lancée. Un certain nombre d'entreprises procèdent à des essais en vue d'une future exploitation commerciale. Parmi les plus avancées, il y a l'entreprise belge GSR, Global Sea Mineral Resources, une filiale du groupe DEME qui est lui spécialisé dans l'extraction offshore. Et c'est ici à Anvers que se trouve son siège.
Hello.
Depuis plusieurs années, GSR procède à des essais dans la zone de Clarion-Clipperton, entre le Mexique et Hawaï. Elle a conçu un robot testeur pour collecter des nodules au fond de l'océan.
Patania est un robot autonome, il n'y a personne dedans. Il est relié au navire par un cordon. Il est doté de chenilles pour se déplacer sur le fond marin.
Chris Van Nyen, le directeur général de GSR.
Il ramasse les nodules et une partie du sédiment qui l'entoure. Ce sédiment est immédiatement séparé et remis sur le fond, alors que les nodules sont conservés dans ce compartiment. Ce véhicule a été testé en 2021 à 4500 mètres de profondeur et il a prouvé simplement le fait que nous pouvons ramasser les nodules de manière efficace. Il n'a pas encore été conçu pour pomper les nodules vers la surface, ce que nous ferons en 2025. J'ai un nodule ici. Dans ce nodule, vous pouvez trouver du manganèse, du nickel, du cobalt et du cuivre. Ces quatre métaux, vous ne pouvez pas les trouver ensemble sur Terre. Cela signifie donc que si vous avez besoin de ces métaux, vous devez ouvrir deux, parfois trois mines terrestres pour obtenir la même quantité de métaux.
Pourquoi ces métaux sont particulièrement intéressants pour vous ?
Le premier facteur important pour la demande de métaux est évidemment la croissance de la population mondiale. Avec l'urbanisation, nous savons que nous devons construire des infrastructures. En plus de cela, nous essayons de nous éloigner des combustibles fossiles. Nous nous dirigeons donc vers un avenir énergétique à faible émission de carbone, et évidemment, les panneaux solaires à batterie, les parcs éoliens et toutes ces infrastructures d'énergie renouvelable nécessitent beaucoup plus de métaux que les infrastructures énergétiques traditionnelles comme le gaz, le charbon ou même le nucléaire. Un véhicule électrique demande 6 fois plus de métal qu'un moteur à combustion interne. En fait, ce que vous trouvez ici dans ces nodules, ce sont exactement les métaux dont nous avons besoin pour faire cette transition vers un avenir à faible émission de carbone.
Qu'est-ce qui reste à faire pour lancer une exploitation commerciale ?
Aujourd'hui, on est dans une phase d'exploration. En 2011, il y a eu une première demande pour commencer à développer des règlements d'exploitation. Mais avant de pouvoir développer un cadre réglementaire pour l'exploitation, vous avez besoin de données. Est-ce techniquement et économiquement faisable ?
Mais pour vous, il y a une question de temps quand même. En tant qu'entreprise, vous avez une stratégie de développement des investisseurs. Or, on sait que l'évaluation scientifique, elle, prendra très longtemps.
Évidemment, si vous voulez tout savoir, alors cela prendra beaucoup de temps. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Et puis, il y a une question d'échelle. Si l'exploitation minière des fonds marins démarre, cela ne veut pas dire qu'il y aura 100 navires dès le premier jour. Il y a une opportunité d'apprendre. Il y a de la science qui permet de l'apprentissage par la pratique.
Pour vous, que pourrait être une exploitation responsable ?
Nous devons faire la distinction entre les impacts directs et indirects. L'impact direct est là où le véhicule va rouler sur le fond marin. Et là, il est clair qu'il y aura un impact. Il y aura probablement des traces sur le fond marin et les nodules auront disparu. Maintenant, je pense que nous devons plus ou moins accepter cela, parce que nous pouvons calculer exactement où le véhicule a été ou devrait aller. L'impact indirect est plus un point d'interrogation. Par exemple, s'il y a un panache de turbidité, quelle distance ce panache va-t-il parcourir et quelles zones seront touchées ? C'était l'une des principales questions pour lesquelles nous avons procédé au test avec Patania. Si nous pouvons voir qu'une zone est impactée directement, plus, disons, 10% indirectement, et que c'est validé par des tests in situ, et si nous obtenons en retour ces métaux qui sont mis en circulation et peuvent être recyclés pour l'éternité, des métaux qui permettront de lutter contre le changement climatique et sont produits avec une empreinte carbone plus faible, alors je pense que nous avons une histoire. Il est très important de comprendre ici que l'adoption de règlements pour l'exploitation ne signifie pas le début de l'exploitation. Cela signifie simplement qu'il existe une feuille de route sur la façon dont vous pourriez potentiellement obtenir un permis. Alors, tous les pays qui disent que nous avons besoin de plus de recherche, j'espère qu'ils financent en même temps les universités pour faire la recherche, parce que sinon, comment allons-nous comprendre ? Il y a beaucoup de désinformation sur le sujet. Cela consiste, par exemple, à dire que cela aura un impact sur le changement climatique. C'est tout le contraire. On peut rapporter ces nodules avec 40% de carbone en moins. Si vous lisez n'importe quel article de journal, il est écrit « Ah, ça va contribuer au changement climatique ». Eh bien, c'est de la désinformation. Ce n'est pas fondé sur la science. Ils utilisent des mots comme « cela pourrait contribuer à cela ». Mais vous savez, « pourrait » est une probabilité. Et cela signifie aussi que cela pourrait ne pas.
Vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'on ne sait pas encore ?
Nous en savons assez. Nos connaissances actuelles, plus un cadre réglementaire qui nous dit ce que nous devons savoir, oui, cela nous autorise à investir dans cette industrie, à acquérir toute la science nécessaire.
Cette future réglementation est aujourd'hui discutée au niveau international, car les abysses sont un espace commun. Ils appartiennent à tout le monde et à personne. Alors en 1994, les Nations Unies ont créé l'Autorité internationale des fonds marins, l'AIFM. Basée à Kingston, en Jamaïque, elle est chargée de réglementer une future exploitation éventuelle des gisements en haute mer et d'organiser l'activité actuelle autour de ces ressources minérales. À ce jour, l'AIFM n'a donné aucune autorisation de les exploiter. En revanche, elle a délivré 31 permis d'exploration, dont 2 à la France, l'un dans la zone de Clarion-Clipperton, l'autre dans l'Atlantique Nord. Et c'est à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, que la France a confié la gestion de ces contrats. C'est là qu'on retrouve Pierre-Marie Saradin. Il est à l'IFREMER le responsable de l'unité de recherche biologie et écologie des écosystèmes marins profonds.
Un contrat d'exploration a plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'est de préparer une exploitation future. C'est essayer d'évaluer la ressource présente, bien sûr. C'est également d'évaluer les écosystèmes présents. C'est d'évaluer les impacts potentiels de cette exploitation. Et c'est d'évaluer la faisabilité économique de cette exploitation. Depuis le pilotage de ces permis par l'IFREMER, l'accent est plutôt mis sur l'acquisition de connaissances fondamentales, sur comprendre par exemple comment ces ressources vont se former au niveau géologie et essayer de comprendre le fonctionnement des écosystèmes associés. Sachant qu'on n'a pas les compétences nécessaires à l'IFREMER, aussi bien pour évaluer les ressources minières que pour évaluer la faisabilité technologique d'une telle exploitation. Pour la partie environnementale, le rôle qu'on a justement, c'est d'acquérir le maximum de connaissances pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes et participer notamment à l'élaboration de la réglementation internationale sur cette exploitation. Réglementation qui n'est pas encore finalisée. Donc toutes les informations qu'on va pouvoir acquérir vont rentrer en compte justement dans la définition de ce qu'est un impact, de l'estimation des méthodologies d'estimation de ces impacts et à partir de quand on va estimer que c'est un impact qui va être dommageable ou non, etc. Donc effectivement, c'est une position qui de l'extérieur peut sembler un petit peu ambivalente, mais pour tout ce qui est environnement, ça nous permet d'un côté d'augmenter nos connaissances fondamentales sur ces zones-là et de l'autre côté de participer activement en tant qu'expert à l'élaboration de cette réglementation internationale.
Vous faisiez quoi là ?
Là, j'étais en train de trier de la faune, donc je récoltais dans cet échantillon des organismes qui sont donc ma spécialité, qui sont des foraminifères benthiques. Donc ce sont des micro-organismes microscopiques donc, qui vivent dans les sédiments, sur ou à l'intérieur du sédiment, et que j'identifie, que je sors un par un, et que j'identifie à l'échelle de l'espèce pour étudier la biodiversité des fonds marins dans différentes zones.
Pierre-Antoine Descendier est chercheur en écologie benthique à l'IFREMER. Sa spécialité, c'est la mésofaune, c'est-à-dire ces organismes non visibles à l'œil nu. Il analyse ceux qui vivent dans les plaines abyssales ou les zones hydrothermales, ces sortes d'oasis des grands fonds. Mieux comprendre le fonctionnement de cette faune permet de savoir quelles conséquences aurait une exploitation des minerais.
Alors il y a différents risques, il y a des risques directs. Une très grande partie de la diversité de ces zones-là, elle est liée à la présence de nodules. Et ces nodules, ils précipitent de manière extrêmement lente. Donc si on enlève, ne serait-ce que d'enlever ces nodules du fond, déjà on supprime un micro-habitat qui est responsable de l'abondance et de la diversité d'un grand nombre d'espèces attachées. Et vu le temps de formation de ces nodules, il est assez clair qu'on ne va pas attendre des millions d'années pour voir s'ils reviennent. On est à peu près sûr qu'ils ne reviendront pas puisque l'habitat est détruit. Donc ça, c'est l'impact direct. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un panache d'extraction, c'est-à-dire que le collecteur qui avance va donc remuer des sédiments qui sont dus à son passage. Tout ça, ça va recréer donc des particules qui vont retomber sur les faunes, qui ne sont pas adaptées à ça. Donc il peut y avoir un enfouissement de certaines faunes qui ont besoin d'être dans la colonne d'eau. Le collecteur en lui-même, il est très lourd, donc il va y avoir un tassement des sédiments. Il faut bien imaginer que cet habitat, l'interface qu'on appelle l'interface au sédiment, donc les premiers centimètres dans la vase au contact de l'eau, c'est un habitat qui est extrêmement dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des échanges constants entre l'eau et ce qu'il y a en dessous. Et cet échange-là, il est responsable de l'oxygénation, de l'apport d'un certain nombre d'éléments qui permettent à la vie de se développer. Donc si on tasse ces sédiments en posant quelque chose de lourd dessus, on va supprimer ces échanges, ou en tout cas les altérer grandement. Et là encore, on va potentiellement affecter ces communautés.
Et est-ce qu'on sait dire si, par exemple, ce qui va se passer localement dans telle zone va, avec les courants, avoir une influence à l'autre bout du monde, ou en tout cas beaucoup plus loin que la zone d'exploitation? Est-ce qu'il y a ça aussi en jeu ou pas?
Alors ces questions-là sont les plus difficiles, ce sont les plus complexes parce que effectivement entrent en jeu de plus en plus de paramètres qui sont liés à la courantologie, à la chimie des océans, au déplacement des faunes. Il est évidemment plus facile de répondre sur ce qui va se passer localement. À très grande échelle, il y a effectivement des études dessus, mais on a encore peu de réponses sur ces systèmes-là.
Cette diversité des espèces existantes, même si on ne les connaît pas, mais en tout cas dont on sait qu'elles sont là, quels liens elles ont avec le reste de l'écosystème plus global, pourquoi, en tout cas de votre point de vue, c'est important d'être attentif à la conservation ou à la préservation de ces écosystèmes.
On connaît peu de choses dans ces fonds marins, mais à chaque fois qu'on découvre des nouvelles espèces et à chaque fois qu'on caractérise des écosystèmes dans les milieux marins profonds, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle des services écosystémiques, c'est-à-dire des tas d'applications, quelles qu'elles soient, ça peut être de la science fondamentale, mais il y a des tas d'applications potentielles en étudiant ces espèces. On peut comprendre l'origine de la vie parfois, on peut parfois, en comprenant leur fonctionnement, trouver des médicaments, trouver des choses qui peuvent servir à l'humanité en règle générale. Donc en fait, on est en train de potentiellement risquer des ressources dont on n'a même pas encore la connaissances sur ce qu'elles vont pouvoir nous apprendre et nous apporter.
Vous décrivez tout ce qu'on ne sait pas, et en même temps ce qu'on sait déjà, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, collecter ces nodules aurait un effet immense sur cette biodiversité.
Ça, c'est certain. Il y a un impact et il est significatif. Ça, c'est certain. Les questions qui demeurent, elles sont plutôt dans l'objectif de comprendre, de mettre des échelles spatiales et temporelles sur cet impact. Ça peut aussi être essayer de mettre en place des stratégies pour préserver un maximum si on estime que la collecte arrivera, quoi qu'on en dise.
Passerelle de PC.
Oui, j'écoute.
Ouais, du coup, on va pouvoir donc faire route au 55 pour 280 mètres, s'il te plaît.
On connaît très peu hein, des grands fonds marins, on connaît à peine 5% ont été explorés et on continue petit à petit à découvrir toute la variété d'écosystèmes qu'on peut y retrouver. José Sarrazin, je suis chercheur en écologie benthique au Centre Ifremer de Bretagne. Chaque mission océanographique ramène son lot d'espèces inconnues. Alors, par exemple, en 2009, on a découvert le crabe Yeti qui a fait le tour du monde parce que c'est un crabe qui, c'est une espèce de, c'est pas un crabe, c'est une galatée qui fait plusieurs centimètres de longueur et qui est toute poilue et tout. Et on l'a découvert encore récemment.
Pour simuler ou essayer d'anticiper ou d'évaluer ce que seraient des effets, quels moyens on a précisément? Comment on a les moyens d'évaluer ce qui n'existe pas encore?
Pour l'instant, l'évaluation des impacts, c'est compliqué parce qu'on est obligé de travailler sur des petites surfaces alors que les impacts seront sur des grandes surfaces. Mais on essaie, là, en amont, d'essayer de comprendre comment cette faune réagit à un impact. Donc, on crée des petits impacts à très petite échelle. On a mis en place une expérimentation. On a travaillé à très petite échelle sur des communautés de moules des grands fonds, à 1700 mètres de fond. Et ce qu'on a fait, c'est que sur des petites parcelles, on a enlevé ces moules. On parle de 30 cm par 30 cm, donc c'est très petit. Et puis, depuis 2017, on suit la recolonisation. Donc, est-ce que ces espaces qui ont été dénudés sont recolonisés par la faune environnante? Et en fait, à notre grande surprise, alors qu'on pensait que les écosystèmes hydrothermaux étaient extrêmement dynamiques, que ça pouvait récupérer rapidement, là, on est à 5 ans après cette défaunation, et à notre grande surprise, les surfaces dénudées le sont toujours, alors qu'on a peu changé l'environnement physico-chimique. Donc, ça pose la question de, même quand on a beaucoup de faune autour, combien de temps ces espèces mettront à recoloniser un site qui a été dénudé ou impacté?
Là, c'est 30 cm sur 30 cm, alors qu'une exploitation, voilà. Ça serait quoi?
Une exploitation, ça dépend des exploitations. On parle de plusieurs centaines de kilomètres carrés au niveau des nodules. On parle de centaines de mètres pour les sources hydrothermales, par exemple.
Un polychète géant des profondeurs.
C'est un broquis. C'est juste un broquis polynéen.
C'est un ver à écailles qui vit dans les moules. Et il est là-dedans. On ne le voit pas encore parce qu'il est, en berne difficulté dans sa petite coque. Dans sa petite coque organique, il s'enroule dans les déchets.
On ne peut bien protéger que ce qu'on connaît, répètent les chercheurs de l'Ifremer. Dans de multiples disciplines, ces scientifiques développent des connaissances sur la gestion des ressources marines. Ils travaillent sur les liens entre océans et climat, sur la biodiversité, et ils multiplient les découvertes sur un monde encore pour l'essentiel inconnu. Sur les étagères des laboratoires s'alignent les spécimens d'espèces vivant au fond des mers. Certaines ont été ramenées par Marianne Cambon, chercheuse en écologie microbienne.
Mon modèle de prédilection, c'est une crevette hydrothermale qui s'appelle Rémicaris exoculata. C'est une crevette à grosse tête qui vit près des sources hydrothermales par 3600 mètres de fond et que j'étudie depuis déjà quelques années, hein, parce que j'ai commencé en 2001. Donc ça commence à faire. Donc c'est une crevette qui a été découverte en 1986 sur le site Snake Pit dans l'Atlantique et qui a tout de suite attiré l'attention des biologistes parce qu'elle a d'abord une très grosse tête, comme on peut voir ici sur ces petits flacons. Donc la tête fait la moitié de la taille de l'animal par rapport à une crevette classique où c'est plutôt le tiers et elle est surtout très très grosse. Ça fait un peu comme les bajoux d'un hamster quand il a mangé. Et elle est sous forme de gros amas, on appelait même ça des essaims autrefois, parce que ça faisait penser un peu aux essaims d'abeilles. Et les collègues biologistes avaient compté jusqu'à 2500 individus par mètre carré, ce qui est absolument énorme. Et on les voit, elles sont tout le temps en train de nager. Et on s'est rendu compte que dans ces grosses bajoues des deux côtés, en fait, c'est rempli de bactéries, des grands filaments microbiens. Et ces bactéries-là, elles remplacent les plantes en surface. C'est-à-dire que dans les grands fonds marins, 3600 mètres de fond, on n'a pas du tout de lumière. Par contre, on a les sources hydrothermales, un peu comme des volcans sous-marins, qui crachent des fluides en permanence, avec des éléments dedans qui sont riches en énergie, comme le fer, l'hydrogène, les sulfures, qui sont un peu l'œuf pourri, et il y a du CO2. Donc exactement comme les plantes en surface, grâce à l'énergie de lumière, font de la photosynthèse et produisent la matière organique, les bactéries du fond font de la chimiosynthèse, donc elles utilisent la chimie et l'énergie chimique pour fixer du CO2, fabriquer les sucres, les lipides, les protéines, et elles nourrissent les animaux. Et donc cette crevette-là, elle est assez incroyable, puisqu'elle n'a même pas besoin d'avaler pour se nourrir, elle n'a pas besoin de chasser ou de chercher sa nourriture, elle a juste besoin de nager pas loin des fluides pour nourrir ses bactéries, entre guillemets nourrir, mais nourrir ses bactéries. Donc déjà, on voit que la vie telle qu'on la connaît, nous, humains, à la surface, c'est pas la seule vie de notre planète. Il y a d'autres façons de vivre, il y a d'autres façons de se développer. Ces espèces-là sont très sensibles à la chimie, puisque c'est leur source de vie. Si on change la chimie des grands fonds, parce qu'on a une activité humaine pas loin, c'est toute la chaîne alimentaire qui est bouleversée. C'est comme si vous mettiez un voile sur des champs. Au bout de quelques temps, il n'y a plus de plantes. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de plantes. Si vous changez toute la chimie au fond, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas répondre aujourd'hui. Donc on sait que ces espèces-là, elles font partie des cycles naturels de notre planète. Comme elles respirent, elles mangent, elles grossissent, elles se reproduisent, elles se développent, elles fixent du CO2 quelque part de l'océan. Donc elles rentrent dans tout ce qu'on appelle la pompe à carbone. C'est un équilibre général. Si on modifie les choses, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on est incapable de répondre. Première observation des sources hydrothermales, c'est 1977. Dans l'histoire de la science, c'est très récent. Et aujourd'hui, malgré toute l'énergie qu'on peut mettre, on a plus de questions que de réponses. Donc c'est ces questions-là aujourd'hui qu'on essaye de renseigner. Pour ça, il faut qu'on aille en mer, il faut qu'on continue nos études, nos observations. Et c'est un travail qui est assez long, il est compliqué. Et il y a très peu de nations qui aujourd'hui ont accès aux grands fonds marins. Là, moi je parle de 3000 mètres de fond. Pour donner un exemple, les sous-marins nucléaires ou les sous-marins militaires, on vont entre 400, 500, 600 mètres grand maximum. Là, on est 3000 mètres en dessous, 3 km plus bas. Donc il y a quelques nations qui ont quelques scientifiques qui ont cette chance de pouvoir étudier, d'essayer de le partager et de faire comprendre que le temps de la recherche, c'est un temps qui est assez long.
Ces crevettes qui sont ici, là, sur ces étagères à l'Ifremer à Brest, comment vous les avez récupérées?
Alors, ces crevettes viennent de la campagne Bicos 2. Du coup, on avait le sous-marin habité Nautil, avec lequel on plonge à trois, donc un pilote, un copilote et le scientifique qui dirige les opérations et les prélèvements. Et donc, on descend au plus près et on a un petit aspirateur, comme celui de la maison, avec des bols en plexiglas et on aspire les crevettes. Donc, on en aspire un tout petit peu à chaque fois dans différents endroits pour étudier les populations. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y a des femelles avec des œufs ou sans œufs, des femelles matures ou pas matures.
Mais du coup, vous plongez?
Oui, les scientifiques, on plonge effectivement et on dirige les opérations au fond pour faire les prélèvements qu'on souhaite et les mesures associées. Donc, on fait de la vidéo, de la chimie. De plus en plus, on fait de l'étude comportementale. Donc, on pose le sous-marin et on fait de la vidéo haute résolution sur des plans. Et après, on peut les étudier au laboratoire, faire des comptages et regarder les comportements.
Vous dites, on ne sait pas, évidemment, on ne comprend pas encore tous les fonctionnements, mais quand même, on fait l'hypothèse qu'il y a un lien entre cette vie dans les grands fonds et la vie à la surface.
Alors en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que on partait de l'hypothèse que les grands fonds étaient vierges, déserts, obscurs, voire il y avait des monstres qui nous attendaient, tapis dans les obscurités. On se rend compte qu'il y a des écosystèmes complets qui nous étaient complètement inconnus. Ils sont basés sur la chimiosynthèse. Alors celle-là, on s'y attendait pas forcément non plus. On s'attendait pas à avoir de tels niveaux de biomasse aussi. Et ce qu'on pense, en fait, c'est que tout est lié Et l'océan n'a pas de frontières. En fait, on pourrait se dire une fumée d'usine, elle s'envole dans l'atmosphère, mais ça, les particules retombent assez vite puisque l'air ne porte pas les particules. Par contre, dans l'océan, ça peut dériver très 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 longtemps sans retomber. Ça dérive longtemps, donc tout circule. Il y a des grands courants qui circulent partout. Donc aujourd'hui, on ne sait pas quantifier jusqu'où ça pourrait partir. Si on touche un endroit, outre le bruit, la lumière qu'on va faire, on va changer toute la chimie puisqu'on va remettre plein de choses en particules qui vont partir au gré des courants qu'on ne connaît pas. Ça va forcément rentrer dans le bol alimentaire des animaux qui passent ne serait-ce que de temps en temps dans les grands fonds et qui rentrent dans les grands courants généraux de la vie de l'océan. Et si ça rentre dans la chaîne alimentaire, bah les poissons de fond, déjà on sait qu'ils se reproduisent moins vite que les autres, mais alors si en plus on se met à les intoxiquer ou à leur changer leur mode de leur condition de vie, ils vont être les premiers touchés, mais c'est qu'une partie de toute la chaîne alimentaire. Et comme on sait que tout est lié jusqu'à la surface où il y a les oiseaux, et puis vous avez les pêcheurs, c'est toute l'économie de pêche qui pourrait être touchée jusqu'à du coup l'humain. Et aujourd'hui, les biologistes tirent la sonnette d'alarme parce que on ne sait pas quel serait l'impact d'une activité minière grand fond qui va forcément faire des rejets. Aujourd'hui, on ne peut pas répondre.
Y aller ou pas ? Au niveau national, chaque pays fait ce qu'il veut dans ses eaux territoriales, sa ZEE pour zone économique exclusive. La France a le deuxième plus grand domaine maritime au monde, plus de 10 millions de kilomètres carrés. Fin 2021, à Marseille, lors du congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, elle n'avait pas voulu approuver une résolution appelant à un moratoire sur l'exploration et l'exploitation des grands fonds. Alors, la prise de position du président Emmanuel Macron, un an plus tard, à la COP27 en Égypte, crée la surprise.
Nous devons tout faire pour préserver les solutions en matière climatique et la biodiversité dans nos océans. Et je veux ici être très clair, la France sera au rendez-vous de ses engagements et fidèle à ce que j'ai déjà dit. C'est pourquoi la France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales.
Pourtant, en 2021, Emmanuel Macron avait salué la définition d'une stratégie nationale d'exploration et d'exploitation des ressources minérales dans les grands fonds. Et 300 millions d'euros avaient été prévus dans le cadre du programme d'investissement France 2030, afin de soutenir le développement du tissu industriel dans ce domaine. C'est l'économiste Jean-Louis Levé qui avait été chargé d'établir cette stratégie.
Les grands fonds marins sont la nouvelle géopolitique du 21e siècle, il faut en avoir conscience. Sans compter les 230 000 km de câbles qui se baladent au fond des océans. Donc c'est un enjeu de puissance entre États qui est très important. Parce que d'abord, pour réaliser la transition énergétique et numérique, nous allons avoir besoin de ressources minérales considérables. Et donc certains États regardent ce qui se passe au fond des océans, que ce soit la Chine, le Japon, les États-Unis, ou en Europe, l'Allemagne, la Norvège. Nous sommes aussi concernés, on a la deuxième zone maritime du monde, donc il faut aussi être capable de la protéger, de la sécuriser et de comprendre ce qui s'y passe. Donc les enjeux environnementaux et éthiques sont évidemment fondamentaux. Des enjeux technologiques, puisque de plus en plus, évidemment, les entreprises évoluent pour produire des robots de plus en plus performants, pour produire aussi beaucoup de numériques qui vont permettre de traiter les très nombreuses données qu'on va faire remonter de la compréhension des océans. Et donc, ce qui est important, c'est le lien entre la recherche, la technologie et les industriels.
Start-up et entreprises qui travaillent sur quoi, un peu concrètement ?
Alors tout ce qui est exploration des grands fonds marins, c'est-à-dire tout ce qui va être robots de plus en plus numérisés, piloter ces robots à distance, avoir des outils aussi qui permettent de traiter des millions de données que l'on va produire en explorant ces océans. Voilà, donc là il y a tout un ensemble d'outils qui existent, qui est en train d'évoluer. Alors l'industrie se développe tout simplement parce que au niveau international, la plupart des grands pays ont un tissu industriel qui est en train de se diversifier, d'investir dans l'exploration et peut-être demain dans des outils qui permettront peut-être l'exploitation des grands fonds marins. C'est le cas de la Chine, en Europe c'est le cas de la Belgique, de la Hollande, de l'Allemagne, qui travaillent déjà. Vous avez par exemple à l'échelle européenne la GP Océane, qui est une plateforme européenne intergouvernementale, qui justement a prévu en 2023 et 2024 de mesurer l'impact environnemental à partir d'un pilote démonstrateur à échelle de 25% pour aller voir ce qui se passe quand on va exploiter des ressources minérales. Voilà, ça c'est une bonne chose. Produisons de la connaissance.
Pourquoi la science ne suffit pas à dire qu'on ne peut pas y aller ou qu'on peut y aller ?
Mais parce que pour descendre dans les fonds marins, il faut des outils. Et sur ces outils, je prends un bateau, je vais au large, je vais faire une campagne d'exploration. À bord, évidemment, il va y avoir des chercheurs, des géologues, des biologistes, mais il va y avoir aussi des informaticiens, il va y avoir aussi des outils de robotique, de traitement des données pour créer, par exemple, des observatoires et regarder ce qui se passe à 500 mètres, à 1000 mètres ou à 3000 mètres de profondeur pour faire remonter ensuite les informations. Et puis, on sait aussi qu'à côté des ressources minérales, n'oublions pas, il y a aussi toutes les ressources biologiques demain qui peuvent être des vecteurs considérables demain pour soigner des maladies très graves. Donc là encore, une fois, il faut vraiment avoir une vision globale. Donc aujourd'hui, on est confronté finalement à deux formes d'utopie. Ou bien une utopie chimérique qui dit on met l'océan sous cloche, on met l'océan global sous cloche. C'est le paradigme un peu restrictif du tout préservation. On préserve tout, on ne va même pas explorer, parce que si on va explorer, on risque même peut-être d'avoir un impact environnemental. Bon, donc on ne fait rien. Le problème, c'est qu'on sera les seuls à le dire, et on sera les seuls à le faire. Le Japon ne le fera pas, les États-Unis non plus, la Chine non plus, l'Allemagne et bien d'autres pays. Et puis il y a un deuxième point, c'est, je dirais, l'utopie réaliste. C'est-à-dire anticipons sur ce qu'il est peut-être possible de faire demain, mais au moins nous aurons la connaissance pour savoir si on est en mesure d'exploiter ou de ne pas exploiter. Ça, ce sont les enjeux environnementaux et les enjeux éthiques. Donc on a vraiment besoin d'avoir à la fois une filière industrielle que l'État doit commencer à financer parce que le marché n'est pas forcément là à court terme. Quand on a lancé l'aérospatiale, quand on a lancé les satellites au niveau européen, on ne savait pas du tout que le marché allait être rentable. Donc l'État, au niveau européen, a mis de l'argent. Là aussi, l'État doit mutualiser les coûts d'entrée sur le marché, aider ses PME à se développer. Et ensuite, le marché s'ouvrira au moins sur tout ce qui concerne l'exploration des fonds marins. Sinon, nos entreprises, tout simplement, travailleront avec d'autres entreprises. Elles le font déjà avec des entreprises allemandes, belges, hollandaises, japonaises et autres.
Jean-Louis Levé, depuis l'élaboration de cette stratégie sur les grands fonds, depuis le début de sa mise en œuvre, la France a changé de position. Le président Emmanuel Macron, d'abord à Lisbonne, puis à la COP27, s'est prononcé en faveur d'une interdiction de l'exploitation. Comment réagissez à ce changement ?
Il ne faudrait pas que cette interdiction de l'exploitation, qui peut être parfaitement compréhensible, se traduisent par une démobilisation de l'ensemble de l'écosystème français. Alors, je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire, il faut arriver à trouver un équilibre, et c'est tout l'enjeu politique au sens noble du terme, entre d'une part, je dirais, les contraintes de la réalité, c'est-à-dire la montée en puissance des autres États, des enjeux technologiques qui progressent, les besoins aussi en ressources minérales que va nécessiter la transition énergétique et numérique, et en même temps les enjeux liés à notre conscience, c'est-à-dire les enjeux éthiques et environnementaux. Voilà, donc évitons de tomber dans l'un ou dans l'autre.
Quelles activités menées dans les grands fonds ? Les discussions entre États reprendront en mars puis en juillet 2023 au sein de l'Autorité internationale des fonds marins. Au cœur des débats, l'élaboration d'un code minier, c'est-à-dire des règles aujourd'hui inexistantes pour les océans. Pour François Chartier, chargé de campagne océan pour l'ONG Greenpeace France, les prochaines étapes seront cruciales.
La priorité dans le débat aujourd'hui, c'est bien la négociation sur la possibilité qu'il y ait des licences, des permis d'exploitation qui soient délivrés en haute mer. C'est là où il y a la pression industrielle la plus forte. C'est là aussi où, en fait, en termes de taille, en termes d'impact potentiel, c'est là où le risque est le plus important. C'est cette zone notamment du Pacifique qui se trouve entre Hawaï, la Polynésie et le Mexique, une zone extrêmement grande. Il y a eu des tests en novembre dernier, donc l'urgence, elle est là. En parallèle, un certain nombre de pays, notamment la Norvège, qui est probablement le plus avancé, souhaite mettre en place donc un code minier national, cette fois, pour aller exploiter. Aujourd'hui, il n'y a eu que des phases d'exploration. On sait qu'il y a d'autres pays. On a entendu l'Inde, qui a régulièrement communiqué sur son intention d'aller voir les ressources dans ses eaux. Un certain nombre d'États insulaires du Pacifique l'ont dit aussi. À l'inverse, on a vu la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de Polynésie, pour ce qui est de la France, s'opposer à l'exploitation et soutenir un moratoire. La discussion est en cours pour les zones néo-zélandaises. L'État d'Hawaï, aux États-Unis, appelle à une interdiction dans ses propres eaux. Donc la dynamique qu'on connaît au niveau international, finalement, on la voit aussi au niveau des zones de souveraineté nationale.
Vous, à Greenpeace, quelle position vous défendez sur cette question des grands fonds ?
Alors, pour nous, la position, elle est très simple. C'est que on pense que pour une fois, on peut éviter une catastrophe environnementale avant qu'elle se produise. On est dans une situation comme si on était il y a un peu plus d'un siècle et demi, où on pouvait anticiper le développement de l'industrie des hydrocarbures et l'empêcher de démarrer. On pense que c'est possible. On pense qu'on n'a pas besoin de ces minerais, et contrairement aux arguments de l'industrie qui disent qu'on a besoin absolument de ces minerais pour la transition, et c'est un chantage très 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 choquant. On mettrait dans la balance d'un côté soit le changement climatique, soit la biodiversité des océans. C'est inacceptable, et on peut faire une économie circulaire. Mais c'est tout le débat sur la transition des mobilités. Si aujourd'hui on se dit l'électrification des véhicules, c'est qu'il y ait autant de voitures, qu'il y ait autant de SUV de 2 tonnes, mais au lieu d'être propulsé au diesel, il soit avec des batteries au lithium, on va dans le mur. Mais si on repense avec l'idée qu'il faut qu'il y ait moins de voitures, qu'il faut qu'il y ait des mobilités différentes qui soient repensées, et pas simplement un changement technologique, ça marche. Et juste un dernier exemple. Simplement la piste d'utiliser c'est un peu technique, mais d'utiliser des batteries dites au sodium. Avec les batteries au sodium, vous n'avez pas besoin de lithium, vous n'avez pas besoin de cobalt. Donc d'une certaine manière, cette technologie pourrait clore le débat de besoin de ces minerais. Encore une fois, on est beaucoup sur de la mythologie et dans une logique productiviste où on dirait il faut toujours plus de voitures, donc plus de métal, donc plus de mines, donc plus de... Et c'est cette logique-là qu'il faut contrecarrer, quoi.
Au fond des océans, des richesses convoitées, un reportage de Catherine Pétillon avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
L'invité de ce grand reportage est Joachim Claudet, directeur de recherche CNRS au CRIOB. Alors j'ai envie de vous faire réagir pour commencer aux propos tenus par François Chartier de Greenpeace, parce qu'il l'invite à changer d'approche. Il dit qu'on pourrait très bien se passer de ces minerais. Est-ce que c'est un discours qui trouve des relais au-delà des ONG ?
Alors, bonjour à tous, merci pour ce superbe reportage. Assez peu, c'est-à-dire que on entend très peu ce discours, et pourtant il est basé sur énormément de faits. C'est-à-dire, moi je suis pas spécialiste du tout des batteries, mais on peut lire dans beaucoup d'endroits que les batteries évoluent, enfin le système de batteries évolue très vite, et que les minerais dont on parle aujourd'hui pour aller, qu'on souhaite exploiter dans les grands fonds marins, sont pour des modèles de batteries qui sont en train d'être périmés. Donc on est en train de développer des batteries pour lesquelles on n'aura plus besoin de cette exploitation, qui fera que cette exploitation sera vraiment plus rentable. C'est la première chose. Et effectivement, comme il le disait, on peut déjà commencer à réduire le poids des voitures. Sans changer quoi que ce soit d'autre, on aura besoin de moins de batteries. Et aller exploiter les grands fonds marins, c'est aussi reproduire un modèle qui, il me semble, sans prendre parti, hein, mais on est en train d'essayer de quitter. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on a surexploité notre planète et que ça conduit à des bouleversements qui sont négatifs pour nous en tant qu'espèce humaine. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité. On est en train de chercher à tout prix différents moyens technologiques, scientifiques, humains, pour essayer d'y remédier. Et là, il me semble qu'on est en train de reproduire un modèle qui est très loin de ce vers quoi on est censé se diriger.
Alors qu'effectivement, d'après ce qu'on entend dans le reportage, il y a des risques environnementaux réels, des perturbations durables de l'écosystème, même s'il y a beaucoup d'inconnus.
Alors, il y a beaucoup d'inconnus. De toute façon, un scientifique vous dira jamais qu'il n'y a pas d'inconnus, parce que c'est notre travail de montrer qu'il y a beaucoup d'inconnus, et on mesure cette incertitude. Mais l'incertitude, elle est réelle, elle est grande, elle est plus grande que pour beaucoup d'autres choses, mais elle est surtout sur l'étendue de l'impact. Elle n'est pas du tout sur est-ce qu'il y aura un impact ou non. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y aura un impact. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que les écosystèmes dans les milieux profonds, ce sont des milieux extrêmement extrêmes, mais très stables. Ils mettent énormément de temps à se renouveler, le cycle de vie est très lent, les conditions sont très stables, bien qu'elles soient extrêmes, mais les températures sont constantes, le contexte physico-chimique est constant, et donc n'importe quelle modification qui pourrait sembler très légère quand on parle par exemple du milieu côtier, où là ça bouge beaucoup, sont considérables pour les grands fonds marins. Donc les impacts vont être forts, et ce dont on ne mesure pas, c'est l'étendue des impacts.
D'autant qu'on entendait que l'océan n'a pas de frontières.
Tout à fait, l'océan n'a pas de frontières. Il y a ce qu'on appelle la connectivité. La connectivité, elle peut être horizontale, c'est-à-dire que l'impact peut se propager sur les grands fonds à l'horizontale, mais la connectivité, elle est aussi verticale. Et on commence à peine à découvrir le rôle que jouent les écosystèmes profonds par rapport au reste de l'océan. Mais par exemple, ils jouent un rôle considérable dans le cycle du carbone, c'est-à-dire que tout le carbone qui est capté dans l'océan, qui est la plus grande partie du carbone capté capturé dans l'atmosphère, va dans l'océan, il rentre dans la pompe biologique, et ensuite il est dans les sédiments, dans les grands fonds marins. Et donc là, on va remettre en suspension des sédiments, on va peut-être relibérer du carbone, et on va abîmer potentiellement la pompe biologique, donc la capacité de l'océan à transformer le carbone en carbone minéral dans le sédiment.
Catherine Pétillon.
Vous parliez à l'instant du changement de modèle sur lequel on est en train de réfléchir. Alors moi, pour ce reportage, j'ai rencontré essentiellement des biologistes, des chimistes, mais en fait, dans les réflexions qu'il y a aujourd'hui autour de l'océan et de cette éventuelle exploitation, c'est un tas d'autres disciplines qui sont en jeu et aussi de questions plus larges qui sont posées. Lesquelles ?
Alors, bah, vous en avez brossé un spectre déjà, mais il y a aussi l'écologie qui est nouvelle pour les grands fonds marins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de biologistes où on commence à comprendre les espèces, comment elles fonctionnent elles-mêmes, mais l'écologie est le lien entre ces espèces. Et on connaît encore extrêmement peu à ce niveau-là. Donc si on va impacter une espèce, on ne sait pas l'effet cascade que ça pourrait avoir sur l'écosystème, et on ne sait pas le rôle que joue l'écosystème local à une échelle plus régionale ou globale. Donc ces notions d'écologie, de lien est très importante. Et il y a aussi toutes les sciences sociales qui ont leur place, ou par exemple, quel modèle de société on veut, le rôle de l'océan dans le développement de certaines sociétés insulaires du Pacifique, par exemple, qui pourront être impactées. On ne sait pas le rôle qu'auront ces impacts dans les zones extraterritoriales, donc en dehors des zones économiques exclusives, comme vous l'avez mentionné dans votre reportage, quel impact ça aura sur les territoires adjacents, comme on dit, donc sur la partie océanique qui appartient aux territoires, aux états insulaires ou aux états côtiers. Il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte.
Mais alors, il y a un souci parce que là, on a entendu des interlocuteurs qui disent tous s'appuyer sur des études scientifiques et qui parviennent à des conclusions diamétralement opposées. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, je suis pas sûr qu'ils ont des conclusions diamétralement opposées. Ce qu'ils disent, c'est oui, il y aura un impact.
Alors il y a une interprétation.
Mais il sera pas conclusion. Très grand. C'est un peu ça que j'entends moi.
Où il y a des dégâts acceptables, c'est ce qu'on croit comprendre. C'est le directeur général.
J'entends pas qu'ils soient prêts à dire qu'il y aura pas d'impact. Parce qu'à partir du moment où on va creuser la roche et ou extraire des choses, l'impact il est indéniable.
Ils disent en fait que le bénéfice est bien supérieur au risque.
Alors ça, c'est un choix de société. C'est pas un scientifique de se prononcer. Mais le problème, c'est que le coût. Donc si on fait un rapport coût-bénéfice, c'est là l'enjeu scientifique, c'est que le coût, on ne peut pas le mesurer encore. C'est ça le problème. C'est que le coût en termes de, sur l'effet sur le climat, on ne le connaît pas. L'érosion de la biodiversité qui peut avoir lieu localement, on ne la connaît pas. L'effet cascade que peut avoir cette érosion de la biodiversité à une échelle plus régionale, on ne le connaît pas. Donc en fait, on ne peut pas mesurer le coût. Les bénéfices, on sait parce qu'on va vendre ces minerais sur le marché pour faire entre autres des batteries, mais encore une fois, il semblerait que les modèles économiques des batteries évoluent très vite et que possiblement on n'ait plus besoin de ce type de minerais très rapidement. Et juste pour compléter, il y a par exemple un certain nombre de boîtes et non des moindres, comme par exemple BMW, Volkswagen, Renault, Volvo, qui ont dit qu'elles ne voudraient pas utiliser des batteries qui ont été sourcées dans les grands fonds marins. Donc il y a quand même une incertitude ensuite sur le marché de ces produits-là.
Catherine. Il y a quand même des divergences aussi qu'il y avait entre les interlocuteurs que j'ai rencontrés. C'est finalement sur la conception qu'on a du rôle de l'océan. Est-ce qu'il doit avoir un rôle de répondre à l'activité, aux besoins humains ou pas? Est-ce que pour vous, cette question-là des minerais repose différemment, repose de façon nouvelle cette question-là?
Oui, non, parce que si on dit que l'océan doit jouer des rôles pour les sociétés humaines, encore une fois, ça c'est un point de vue de société, et selon les sociétés, le rapport nature-culture est très différent. Il y a des sociétés où ils n'existent même pas, ils sont imbriqués, et on se poserait même pas la question. Mais même si on veut répondre oui à cette question, encore une fois, c'est de quel service on veut, c'est-à-dire utiliser des minerais sur du très court terme, pour des potentiels profits à très court terme, ou sécuriser des bénéfices qui sont potentiellement bien plus importants, comme notre survie même, par rapport au changement climatique, etc., mais et qui sont viables sur le plus long terme. Mais on peut aussi imaginer, puisque comme ça a été dit dans votre reportage, on découvre des espèces quasiment à chaque immersion qui sont faites. Parce que, ça a été dit, c'est très coûteux d'y aller, on n'y va pas beaucoup, et donc, et comme c'est peu connu, on découvre beaucoup d'espèces. Et aussi, quelque chose d'important, c'est que les écosystèmes profonds, il y a peu d'espèces dans une zone donnée. ils sont peu diversifiés localement, mais on voit que d'un endroit à un autre, les espèces sont très différentes. Donc elles jouent des rôles importants, c'est-à-dire qu'il y a une unicité forte des rôles de ces espèces, et c'est pas la même espèce qu'on va trouver partout dans les grands fonds. Et ces espèces-là, on peut les utiliser de manière beaucoup moins impactante, c'est-à-dire que de par leurs ressources génétiques ou les composants qu'elles vont sécréter, ça peut être utilisé pour de l'adhérence, ça peut être utilisé pour la pharmacopée, on peut les utiliser pour des leviers économiques, ce qu'on peut appeler l'économie bleue durable, cette fois-ci, des leviers économiques qui peuvent être considérables, qui peuvent rendre beaucoup de services à l'humanité, mais qui auront un impact beaucoup moins, puisque une fois qu'on a découvert une espèce, qu'on va découvrir des nouvelles molécules, on va pouvoir les reproduire sans aller prélever cette espèce indéfiniment.
Mais vous disiez qu'on n'y va pas beaucoup parce que ça coûte cher, et justement c'est là que parfois il y a des intérêts convergents, c'est-à-dire que des industriels vont être prêts éventuellement à financer des expéditions scientifiques, et donc les scientifiques vont être contents à ce moment-là de...
Oui et non, c'est-à-dire, alors peut-être qu'on peut être content, il s'agit pas de toute façon, en aucun cas le débat doit être de se poser la question si on doit rendre heureux ou non les scientifiques.
Bien entendu, non mais l'objectif étant de faire progresser la recherche et de répondre aux multiples questions qui se posent aujourd'hui.
Mais encore une fois, c'est des choix de société parce que on peut tout à fait décider d'aller explorer les océans et c'est important d'un point de vue scientifique, en tant que scientifique, moi je vous dis, c'est fondamental, c'est de la connaissance. Et après, d'où on va trouver les leviers économiques pour le faire, c'est là où c'est un choix politique. Est-ce que ça va être juste être nos impôts? Est-ce que c'est des industriels qui vont vouloir exploiter les minerais qui doivent le cofinancer? Ou est-ce que c'est de l'exploration pour de la pharmacopée ou toute la gamme de biomimétisme qu'on peut imaginer parce qu'il y a encore une fois des leviers considérables à ce niveau-là.
Alors il y a aussi les militaires que ça peut intéresser d'aller dans les grands fonds. La NASA aussi, l'agence spatiale américaine, puisque finalement aller dans les profondeurs dans ces milieux extrêmes, ça peut préparer des missions spatiales futures.
Oui, tout à fait. Et alors, je suis pas spécialiste de l'exploration spatiale, mais ça me permet de rebondir sur moi avec d'autres scientifiques. On dit que encore une fois, d'autres modèles sont possibles et quelque chose qu'on propose qu'on pourrait commencer à établir dès maintenant, hein, c'est pas un rêve, c'est une station sous-marine internationale. Donc sur le modèle des stations spatiales internationales. Pourquoi ? Parce que ça a été dit dans le reportage, très peu de pays ont la capacité d'aller explorer les grands fonds marins. Donc il y a vraiment une problématique d'équité d'accès, ensuite équité dans la redistribution des bénéfices, équité dans le partage des connaissances, et d'avoir une station internationale qui pourrait accueillir des chercheurs du Sud, par exemple, qui n'ont pas dans leur pays la capacité à y aller, qui pourraient accueillir des jeunes chercheurs pour les former à ce que c'est que d'aller dans les grands fonds marins, ça pourrait être un autre modèle de collecte de connaissances, de collecte d'informations, et même de construction de sciences au niveau global, où on est en train, nous, scientifiques, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un rattrapage dans la connaissance qui est globalement la connaissance mondiale qui vient de la science et globalement occidentale. Et on espère un rattrapage à ce niveau-là.
Et quel écho a trouvé cette proposition ?
Pas.
Pas encore.
Pas encore. C'est-à-dire qu'on l'a publié donc dans des revues scientifiques où il y a place dans certaines revues, c'est un papier, ce qu'on appelle un papier d'opinion. Donc c'est publié comme tel, hein, c'est pas basé sur des faits scientifiques. Et on en parle respectivement, moi et mes co-auteurs, dans différentes arènes, comme j'en parle ici.
Parce que ces collaborations au niveau industriel, elles se font internationalement.
Bien sûr.
Et alors, à la COP27, Emmanuel Macron a déclaré que la France soutenait l'interdiction de toute exploitation des fonds marins. Est-ce que, à vos yeux, ça vous semble une position ferme et durable ? Ou est-ce que vous avez des inquiétudes de
alors,
ce côté-là ?
C'est pas à moi qu'il faut demander ça, parce que je dîne pas avec Emmanuel Macron, j'aurais rien contre, mais c'est pas le cas. Et donc, ça, je peux pas en témoigner. Ce qu'il y a, c'est que cette position, elle est... c'est compliqué parce que il y a un processus qui est en cours en ce moment à ce qu'on appelle l'AIFM, c'est l'Autorité internationale des fonds marins, donc c'est une agence des Nations Unies qui est la convention sur laquelle se régit l'exploitation des grands fonds marins au-delà des juridictions nationales. Et un certain nombre de pays appellent un moratoire parce qu'un moratoire ça permettrait de ne pas aller exploiter et il faudrait que les autres pays rejoignent le moratoire. Alors que l'interdiction, moi en soi, je suis pas du tout contre, voire même pour, mais le chef de l'État français n'a pas juridiction Voilà, donc il faut chercher à construire une coalition d'États au sein de l'AIFM pour que il n'y ait pas d'exploitation, si c'est l'objectif.
Est-ce que vous avez le sentiment que le rapport de force change entre les pays? Vous citiez aussi des entreprises qui ont pris des positions. Voilà, est-ce que ça évolue?
Ça bouge très vite. Ça bouge pour plein de raisons. C'est que les scientifiques parlent de plus en plus et se permettent de prendre position, c'est-à-dire de donner un avis sur un choix de société, ce qui était un peu moins le cas avant. Ça bouge aussi grâce à vous. Les médias s'y intéressent beaucoup. Il y a un certain nombre d'émissions de radio, de reportages qui sont faits. Il y a un reportage là qui était à Sundance il n'y a pas longtemps et qui doit sortir bientôt aux États-Unis, j'espère en Europe rapidement, qui est justement sur ces problématiques d'exploitation des grands fonds marins, sur comment fonctionne l'AIFM. Donc je pense que ça bouge vite et les positions des États changent vite. Par exemple, moi j'étais au Canada il n'y a pas longtemps pour un congrès sur les aires marines protégées et le Canada s'est positionné en faveur du moratoire également contre l'exploitation des grands fonds marins.
Et alors justement, ces aires marines protégées qui ont été mises en place, est-ce que pour vous ça c'est un exemple vertueux? Est-ce qu'il faudrait les multiplier? Est-ce que ça sert véritablement à quelque chose?
Alors c'est une vaste question. On pourrait faire une nouvelle émission de radio. Je serais ravi de revenir vous en parler parce que c'est très compliqué. Il y a un grand type d'aires marines protégées. En soi, les aires marines protégées, c'est un outil formidable qui permet de gérer les usages et les écosystèmes de manière intégrée. Après, un trop grand nombre d'aires marines protégées n'ont malheureusement de protéger que le nom. Et donc, on peut y faire un peu tout ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, celles-ci ne sont pas extrêmement utiles pour atteindre les objectifs du développement durable.
Catherine Pétillon.
Rapidement, là, on va reprendre les discussions à l'AIFM sur le statut de l'exploitation. La semaine prochaine, on va reprendre les discussions sur des traités de la haute mer, deux négociations qui n'ont rien à voir, ou est-ce qu'elles s'imbriquent entre elles?
Alors, elles devraient s'imbriquer. Malheureusement, elles ne s'imbriquent pas. C'est-à-dire que il y a eu un découpage dans les conventions des Nations Unies qui régissent les droits de la mer et les usages qui sont faits de la biodiversité. Parce que, par exemple, le trafic maritime est régi dans une convention qui est à l'OMI, l'Organisation du Trafic Maritime Mondial. Il y a donc l'exploitation des grands fonds marins, enfin tout ce qui régit les grands fonds marins, c'est à l'AIFM, l'Autorité Nationale des Grands Fonds Marins. Tout ce qui va se passer dans la colonne d'eau sur la biodiversité, mais hors pêche, et donc surtout sur un focus ressources génétiques marines, c'est ce qu'on appelle communément BBNG pour la biodiversité au-delà des juridictions nationales. Et donc cette fragmentation de la gouvernance de l'océan est une de ses principales menaces, c'est-à-dire que on va potentiellement promouvoir des aires marines protégées si le traité se conclut dans ce qu'on appelle BBNG, mais ces aires marines protégées ne pourront pas réguler la pêche, ce qui est une des principales un des principaux stresseurs sur les écosystèmes en haute mer, parce que la pêche doit être régie dans les organes de gestion des pêches des Nations Unies. On ne pourra pas décider de ce qui se passe sur les grands fonds parce que c'est à l'AIFM, etc. Donc c'est un enjeu important d'essayer d'apporter plus de cohérence dans ces négociations.
Merci Joachim Claudet. Merci à la compagnie Théâtre Piba pour les sons des grands fonds océaniques. Au fond des océans, des richesses convoitées, le grand reportage de cette semaine était signé Catherine Pétillon, réalisation Annie Brault avec Alexandre Dang à la technique. Merci à la documentation de Radio France et à Caroline Beneteau au web. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr.